Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Tous les vendredis de 19h à 21h, la spiritualité, les médiums, la vie après la mort, les auras, votre sixième sens. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Thomas et Laurent.
Bonsoir à toutes et à tous. 19h et 2 minutes sur les ondes de Pacific FM. On est ensemble jusqu'à 21h. C'est Enquête spirituelle avec, bien sûr, Thomas qui est là. Bonsoir Thomas.
Comme d'habitude, il est là, il est présent, bien assis confortablement. Bonsoir Laurent, comment vas-tu?
Ça va super.
C'est le week-end?
Ouais, comme chaque vendredi.
Comme tous les vendredis. C'est vraiment
c'est bien de le rappeler.
Hein.
C'est bien de le rappeler, ouais. Parce que le week-end, c'est bien, c'est positif.
Bien sûr. Alors ce soir, on a un invité de marque, je tiens à le préciser. Oui, oui, je suis très honoré de te recevoir. On reçoit merci. Gabriel.
Merci, merci. C'est une marque qui m'honore, qui me touche.
Je suis très content de te recevoir. Parce que
bonsoir
ça fait...
à tous et à voilà. Toutes d'abord. Et puis merci de m'accueillir ici sur Pacific FM. J'espère qu'on passera un bon moment en parlant de... Bonsoir, Edgar Cayce,
oui.
Qui est un médium guérisseur, et on dira quelque chose tout à l'heure.
Donc après la pause musicale, Gabriel reprendra immédiatement nous parlant d'Edgar Cayce et des prophéties d'Edgar Cayce. Et bonsoir Rémi, c'est vrai?
Bonsoir.
Oui, c'est vrai.
Elle attend dans son coin.
Elle attend dans son petit coin.
Mais
là-bas.
Elle est sage.
Oh oui, très.
Donc si les auditeurs ont des questions, s'ils veulent témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au 069 730 332 ou depuis la France et l'étranger, 00 32 69 730 332.
Voilà. Alors, restez avec nous parce que dès que la pause musicale est terminée, vous avez Gabriel qui va se lancer dans l'exposé sur les prophéties d'Edgar Cayce, mais nous on n'intervient pas immédiatement. Voilà, vous verrez, ce sera la surprise.
À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Thomas et Laurent.
Monsieur Cayce. Vous êtes accusé d'avoir violé l'article 899 du Code pénal qui interdit de dire la bonne aventure. Lorsque vous êtes dans ces prétendus trans médiumniques, est-ce que vous savez ce que vous faites et ce que vous dites ? Non, monsieur le procureur. Vous n'en avez pas la moindre idée ? Non, monsieur le procureur. Ah, c'est un peu fort. Vous vous moquez du monde. Alors maintenant, nous allons entendre les témoins. Monsieur David Kahn. Celui-ci se présente à la barre. C'était un homme d'affaires connu à New York. Il avait d'excellentes manières. D'ailleurs, ça a impressionné favorablement l'auditoire. Alors, Kahn expliqua qu'il présidait l'association des amis d'Edgar Cayce, qu'on appelle ARE, dont le but était la recherche scientifique et spirituelle, qu'il s'agissait d'une association à but non lucratif, parfaitement légale, et qu'Edgar Cayce ne disait pas la bonne aventure. Kahn expliqua à l'Assemblée que l'accusé Edgar Cayce avait un don extraordinaire. Lorsqu'on l'endormait sous hypnose, il pouvait voir l'intérieur du corps humain avec chaque organe malade. Si on lui en demandait l'explication, il donnait les causes de la maladie et ensuite un traitement. Et en général avec des médecines naturelles et sans danger. Alors Kahn affirma que Cayce avait déjà guéri des milliers de gens de cette manière. Mais monsieur Kahn, vous êtes en train de nous parler d'exercice illégal de la médecine. Ah non, monsieur le procureur. L'accusé Edgar Cayce ne fait aucun commerce de son don. Il est absolument et totalement désintéressé. Puis David Kahn expliqua au procureur que pour examiner cet étonnant phénomène, il avait réuni des juristes, des médecins, des universitaires, des scientifiques, bref, des gens hautement respectueux, dont certains fort connus à New York. Il réussit à prouver que Cayce n'avait aucune prétention à jouer les médecins, qui ne donnait pas de consultations, mais nuance seulement des lectures. Et ces séances spéciales, appelées lectures, étaient réservées exclusivement aux membres de l'association. Ceux-ci étaient volontaires, et accepter à leur risque et péril de se prêter à une expérience scientifique. Les comptes rendus des lectures, c'est-à-dire les sténographies de ce que Cayce avait dit pendant son sommeil hypnotique, constituaient des documents sur lesquels pouvaient travailler les chercheurs. Les statuts de l'association définissaient d'ailleurs clairement ses objectifs, étudier scientifiquement les dossiers et les informations fournies par M. Cayce. Kahn expliqua que l'association était non seulement orientée sur la recherche scientifique, mais aussi sur la recherche spirituelle, dans une perspective biblique. Ce qui parut extrêmement rassurant au procureur, dans cette ambiance de la puritaine Amérique de ces années-là. Tout cela était vrai. Était vrai sauf que Case, sous l'artifice légal d'une association pour la recherche scientifique, pratiquait bel et bien l'exercice illégal de la médecine. Mais qui s'en plaignait ? Il avait déjà guéri des milliers de gens et ne cessait de répéter que si une seule de ses lectures devait nuire à quelqu'un, il arrêterait tout de suite. Le tribunal était cependant bien embarrassé. Nous sommes le 11 novembre 1931 et voici le jugement que rendit le tribunal de New York.
Ça peut pas être plus clair.
Après avoir entendu les témoins à charge, les accusés et leurs défenseurs, après avoir examiné les charges relevées contre eux, et après avoir pris connaissance des rapports les concernant, attendu que M. Case et ses collaborateurs ne prétendent pas dire la bonne aventure, j'estime que les déclarés coupables d'avoir violé l'article 899 du Code pénal, paragraphe 3, constitueraient un regrettable empiétement sur les libertés et les usages reconnus aux associations ecclésiastiques, qui, comme celles-ci, emploient des personnes diplômées en règle avec la loi. Je les déclare donc non coupable. Ainsi, le tribunal de New York nous l'apprend. Case n'était pas un charlatan. Mais peut-être cette affaire était-elle nécessaire pour faire connaître un peu mieux Edgar Case au grand public. Alors, si vous le voulez bien, Thomas.
Oui.
Bien, nous revenons en arrière et nous verrons un petit peu
pourquoi qui était Edgar Case. Voilà. Ce que tu viens de nous dire par rapport à ce jugement qui a eu lieu en 31, hein, c'est ça.
Et hein, oui, pourquoi a-t-il été amené au tribunal ?
Qui est Edgar Case ?
Qui est-il ?
Tu vas nous le dire ?
Eh bien, bon,
on est tout oui.
À l'origine, il était issu d'une famille tout à fait modeste, hein, mais même il avait des racines françaises. Il était né le 18 mars 1877 aux États-Unis.
1877 pour nos...
Ah, excusez-moi.
1877, c'est pour nos amis français. 1877. Nous sommes sur Pacific FM.
Je ne sais pas parler le belge.
1877.
On nous écoute bien aussi en France.
Mais oui, je plaisante.
Bien sûr. 77. Aux États-Unis, dans le Kentucky. Les parents du jeune Edgar ne remarquaient rien de vraiment extravagant quand il était petit, qui pouvait préfigurer ce don. Parce qu'il faisait autant de bêtises que les autres enfants, d'abord, hein, il était tout à fait normal. Et même certains biographes racontent qu'il avait de longues conversations avec, entre guillemets, des fées, et avec son grand-père décédé. Sa grand-mère d'ailleurs comprenait ça très bien parce que c'est un peu comme chez nous dans les campagnes des États-Unis, la communication avec les morts était quelque chose courante, un peu comme nous quand on a des anciens dans les petites campagnes, des guérisseurs, des médiums, tout ça, bon, des rebouteux comme on dit en France.
Bien sûr. Bon.
Et d'ailleurs, c'était l'époque de la grande vogue des réunions spirites, à cette époque-là aux États-Unis, sous l'influence d'Alan Kardec, d'ailleurs.
Et les Sœurs Fox.
Voilà, et les Sœurs Fox qui ont démarré un petit peu...
Tout à fait.
La mode des discussions avec les morts.
Mm-hmm.
Alors, les gens se réunissaient, en fait, pour parler avec les défunts. Comme c'était la campagne, la famille Case habitait une ferme, près de la petite ville de Hopkinsville. Bon, c'était un enfant radieux, Edgar, c'était bon, un gamin souriant, grandi d'ailleurs au contact de la nature, puisque c'était une ferme, hein. Il menait une vie agricole. Dans son entourage, on cultivait du tabac, on montait à cheval, on allait à la pêche, on chassait. Son père était élu juge de paix dans le canton. Il a donc abandonné les travaux agricoles, ce qu'il fit avec grand plaisir, car à la différence de sa famille, il ne se sentait pas fermier dans l'âme. Aussi aurait-il aimé avoir un fils brillant dans les études.
Mm-hmm.
Alors est-ce que c'est le cas pour le jeune Edgar Case ? Eh bien hélas, non. Non. Pourquoi ? Bah pourquoi ? Parce que c'est pas son truc, comme on dit en France. Hein. En Belgique, on le dit aussi, ça. Hein. C'est
ouais,
pas son truc. Hein. Bon. Alors bon. Le papa est un petit peu désolé de ne pas avoir un élève brillant chez lui, quoi. Mais pourtant, il avait appris à lire, bien sûr. Mais le seul but pour lui de la lecture, c'était de pouvoir déchiffrer la Bible. Alors, ça peut paraître curieux, hein, bon. Mais il voulait pouvoir lire la Bible tout seul. Alors, lorsqu'il eut 10 ans, son père lui offrit un exemplaire de la Bible et Edgar jura qu'il la relirait en entier chaque année. Et ce qu'il fit.
entier chaque année.
Chaque année.
Parce que la Bible, c'est.
Oui, ouais. Chaque année.
Un des pages.
Oui, mais il y en a qui lisent quand même plus vite que certains autres.
Oui. Hein, moi, ce que moi, il me faut, dès la première année terminée, je peux la réentamer. Hein.
Oui, non, le problème maintenant, c'est qu'Internet lit à notre place.
Exactement. Voilà. Il suffit de mettre la main sur l'écran et boum, tu sais tout. C'est merveilleux. Hein.
Alors, en tout cas, ça explique pourquoi vous trouverez dans les commentaires d'Edgar Cayce énormément de citations qui sont tirées de la Bible.
Ouais, hein? D'accord, oui.
Alors, deux épisodes marquant sa jeunesse, Thomas. Alors, je vais vous en citer deux particulièrement, prometteurs pour la suite, pour les futurs succès du prophète endormi. On l'appelait comme ça, le prophète endormi, et vous allez comprendre pourquoi. D'abord, un jour où Edgar Cayce, Cayce père, était exaspéré d'avoir pour fils le cancre de la classe, il décida de lui faire réciter sa leçon. Et après trois heures d'efforts inutiles, le père gifla le fils. Catastrophe. Il s'en alla dans la cuisine, boire un verre d'eau pour se calmer, se rafraîchir. Et quand il revint, le jeune Edgar était endormi dans son fauteuil. « Réveille-toi !» lui dit son père furieux. « Va te coucher, je perds mon temps avec un imbécile comme toi. »« Mais attends, papa. Je la sais maintenant, ma leçon, je la sais. J'avais seulement besoin de dormir un peu. Pose-moi des questions, tu verras, c'est vrai, je la sais. » Et c'était vrai. Il savait la leçon par cœur. Le père réagit mal. Il crut que son fils se moquait de lui. Il l'envoya au lit avec une autre gifle.
Ah bon ?
Eh oui, cool. Mais à partir de ce jour-là, Edgar avait compris qu'il lui suffisait de dormir sur les livres pour les savoir.
Dormait sur un livre pour les savoir.
Ça, on croirait un dessin animé ou un conte de fées, quoi.
Mais voilà. Oui.
Mais il savait, quand je dis les savoir, page par page, hein, par cœur, y compris la description des images. Ce don ne persista pas bien longtemps. Dommage pour lui,
oui.
Et Edgar ne put réussir que sa dernière année primaire avant de devoir chercher sa propre place dans le monde.
D'accord.
Ça ne l'a pas beaucoup aidé pour faire des études. Le deuxième épisode, celui-là, est intéressant aussi parce que c'est comme un démarrage. Ça se produisit un jour qu'Edgar eut un accident. Quand je dis accident, il jouait dans la cour de l'école avec ses copains et il fut frappé de plein fouet par un ballon. Et tout l'après-midi, il eut en classe un comportement bizarre. Vous savez, comme quelqu'un qui a des nausées, qui se sent pas bien. Il rentra chez lui, il se coucha et sombra dans le coma. Et voilà que, tout d'un coup, dans son sommeil comateux, Edgar se mit à parler. D'une voix forte et claire. « J'ai reçu un choc. C'est ce ballon. Il m'a frappé dans le dos. » Puis, il ordonna à sa mère... « Pour me guérir, mettez-moi sur la nuque un cataplasme d'oignons et de maïs écrasés. » Sachant que ces deux légumes ont des vertus médicinales, parce que nous sommes à la campagne, hein, on se soigne beaucoup par les plantes, sa mère exécuta l'ordonnance, entre guillemets, de son fils et lui fit le cataplasme demandé. Le lendemain, Edgar se réveilla frais comme un gardon.
D'accord.
Donc on peut... quand je dis ordonnance, entre guillemets, c'est la préfiguration des lectures qu'il aura, et non pas des consultations, mais des lectures. C'est un peu ça. Donc, avant de l'appliquer aux autres, il se l'est appliqué à lui-même pour la toute première fois. Voilà, deux épisodes importants. Puis ensuite, bien sûr, il n'aimait pas les études. À 16 ans, eh ben, il abandonne sa scolarité. Il va travailler à la ferme d'un de ses oncles. Et, bon, c'est une vie agricole. Mais le fait de lire la Bible chaque année... lui avait ouvert de nouveaux horizons. En fait, il aurait bien aimé devenir pasteur. Surtout, ce qu'il aurait
pasteur,
aimé, c'est...
Pasteur, c'est l'église protestante. Hein.
Oui.
Non, on est bien d'accord. Hein. Ouais.
Mais en fait, peu importe pour lui, son objectif premier, c'était surtout pouvoir aider les autres.
D'accord.
Il avait cette envie d'aider les autres, de faire quelque chose de sa vie par rapport aux autres. Alors, en 1899, il a 22 ans, il s'installe à Hopkinsville et travaille comme vendeur à la librairie Hopper. Bon, cette année-là, il fera la connaissance de Gertrude Evans, sa future épouse. Et un an plus tard, Edgar part travailler à Louisville, où il travailla comme représentant à la papeterie Morton, où il gagnait à peine de quoi vivre.
Mm-hmm.
Il dut prendre un travail supplémentaire, C'est d'actualité, ça. Aujourd'hui, on est un peu comme ça.
Hein. Et travailler plus pour gagner beaucoup plus.
Et oui,
ou beaucoup moins. Plus, beaucoup plus, mais moins, etc.
Ouais. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il espérait gagner un peu plus. Donc, il prend un travail supplémentaire de courtier d'assurance.
D'accord.
Il espérait gagner suffisamment d'argent pour épouser sa Gertrude.
Mm-hmm.
Hein, Gertrude, c'est un prénom qu'on connaît bien en Belgique. Hein. Brel l'a chanté, Gertrude, non?
C'est possible.
Ou c'est Germaine. Oh, je confonds les prénoms.
Gertrude ou Germaine, ouais.
Ouais.
Non, mais Laurent, l'histoire belge. T'es de Belge?
Bon, c'est un petit clin d'œil à mes amis belges. Hein.
T'es né en Belgique?
Ah oui, tout à fait.
Tourné même?
Non.
Ah non.
En Flandre, je suis né en Flandre.
Oh.
Je suis d'origine flamande.
Flamand, ah ben, c'est merveilleux.
Bon,
c'est merveilleux.
Tout le flamand, je comprends pas le flamand, mais bon.
Oui. Bon,
c'est un minimum, quoi.
Par contre, mon cher Gabriel, on continue juste après.
On fait une petite pause musicale.
Coupe la chic.
Mais je suis là, je reste avec vous.
Ah, mais on espère bien, c'est passionnant. A tout de suite avec Edgar Cayce. Gabriel qui nous raconte Edgar Cayce.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Thomas et Laurent.
De retour dans Enquête spirituelle, bien évidemment jusque 21h, et ce soir on parle d'Edgar Cayce, et c'est très bien narré, c'est super bien fait.
Oh, c'est gentil, merci.
C'est vrai, c'est très intéressant.
Très intéressant.
On a affaire à un excellent orateur ce soir qui nous parle d'Edgar Cayce, et puis on va venir un peu plus tard sur ses prophéties, si ça va s'y intéresser. Hein.
On est dans sa jeunesse, et on en fait, en fait, dans la transition entre sa jeunesse et son avenir professionnel, je dirais. On a donc, on s'est arrêté. On a dit, il a repris un second travail parce qu'il avait besoin d'argent.
Il avait besoin d'argent.
Et c'est là que ça va démarrer en fait, parce que accumulant le travail, eh bien, il va être surmené, fatigué, et son état de faiblesse, à la fois morale et physique, l'amène à l'hôpital, où il se réveille sans qu'aucun son ne sorte de sa bouche. Il est muet ou aphone. On ne sait pas trop, mais il ne peut plus parler. Alors après avoir consulté des médecins, plusieurs médecins, les diagnostics étaient tous unanimes, sans espoir, le mal était irréversible. Alors vous allez me dire, pour faire des prophéties avec un muet, c'est pas facile, on a toujours le langage des signes, vous me direz. Ce fut une catastrophe pour Cayce, pourquoi? Parce qu'il dut se mettre à la recherche d'un autre travail. On peut pas être courtier d'assurance sans voix. Ni vendeur dans une papeterie sans voix. Alors il trouvera un poste d'assistant laborantin chez un photographe de Hopkinsville. À cette époque, aux États-Unis, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, se développaient les mouvements spirites. Les gens étaient attirés par les sciences parapsychologiques et l'hypnose surtout. Cayce se laissa séduire par une conférence sur l'hypnose que donnait le professeur Hart. Le professeur Hart, ayant pris connaissance du mal de Cayce, lui proposa de le soigner par hypnose. Le mal n'étant pas médical, mais plutôt psychologique, cela devait être possible, par les suggestions tout au moins. Et Cayce, n'ayant rien à perdre, il accepta et se prêta à une séance en compagnie d'un médecin. Il fut hypnotisé par le professeur Hart, et à son réveil, il apprit qu'il avait parlé. Donc, que le mal n'était pas irréversible. L'expérience se renouvela à plusieurs reprises, mais sans succès. Cayce parlait en état d'hypnose et devenait muet à l'état d'éveil. Alors, il va falloir quand même trouver une solution à ce problème, et c'est en faisant connaissance de Al Len, c'est un modiste, qui est passionné de médecine naturelle et d'hypnose. C'est avec lui, avec ce Al Len, on l'appellera Len, ce sera peut-être plus simple, qu'il trouvera la solution de son problème. Les suggestions des hypnotiseurs n'ayant aucun pouvoir de persuasion sur Cayce, il devait être capable de s'endormir seul, autrement dit, de s'auto-hypnotiser, en compagnie d'un tiers qui lui ferait les suggestions une fois endormi. Alors il essaya, et Cayce s'hypnotisa sous le contrôle de Len, qui lui demanda, une fois endormi, de regarder à l'intérieur de son corps. Quelques instants plus tard, Cayce parlait, donnait le diagnostic et les soins à effectuer afin de guérir. Comme à sa première lecture, sa voix avait changé. Il parlait à la première personne du pluriel. Oui, nous voyons le corps. Nous constatons une paralysie partielle des cordes vocales provoquée par une trop forte tension nerveuse. Il faudrait suggérer au corps d'amplifier la circulation du sang dans la zone malade pendant quelques minutes. Len suivit les conseils donnés par Case, qui après cette séance avait retrouvé la voix. Là venait de naître le fabuleux médecin, médium guérisseur, comme vous voulez, qui était Edgar Case.
Intéressant.
Bon, ouais, sous l'effet de l'auto-hypnose, il y a ces voix qui parlent au pluriel, nous. Ouais. Alors, je fais un petit parallèle avec un autre médium guérisseur de la même qualité qu'Edgar Case, qui est Jan Borg, qui lui avait aussi ses voix qui parlaient.
Pas le tennisman. Hein,
non, pas, Borg, ouais. C'était pas le tennisman.
Jan Borg, un américain aussi.
Oui, bon, d'accord. On aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Pourquoi
jour,
pas, hein. Oui. Pas.
Lui aussi, ses fameuses voix, d'ailleurs, les appelait les speakers. Ah oui. On traduit par les parleurs, les voix. Mmh. Voilà. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que quelquefois sa voix se modifie. Ce n'est plus sa voix qu'on entend. On a l'impression qu'il y a une autre personne en lui qui parle.
Une incorporation.
Un peu, voilà, on pourrait dire ça. Mmh. Mais c'est toujours au pluriel, donc ils sont plusieurs. Un peu, il y a aussi le cas de certains médecins du ciel. Tu as peut-être entendu parler, Thomas, des médecins du ciel.
Bah, avec Maggie Lebrun, on en a parlé il y a deux, trois semaines.
Vous en avez parlé. Donc, oui. C'est toujours ces esprits bienfaisants qui viennent à notre secours.
À travers nos énergies. Ouais.
Voilà. Et donc, bon, on peut supposer qu'Edgar Case avait affaire à ces médecins du ciel, en quelque sorte. Voilà, on continue, Thomas.
Mais avec plaisir, cher Gabriel.
Évidemment, ayant découvert ce principe d'auto-hypnose, eh bien, il va commencer à effectuer des lectures et à trouver les causes des maladies qui parfois étaient antérieures même à la vie présente. Parce qu'on va très loin, on passe dans des vies antérieures. On va chercher le mal là où il se trouve. Sous hypnose, bien entendu. Mm-hmm. Et il suggère des remèdes. Et c'était son ami Len qui le mettait au courant de ce qui s'était passé pendant la transe, parce que lui, il n'en avait pas souvenir au réveil. Mais il était un peu effrayé de ce qui lui arrivait, et on le comprend. Il avait peur de ce qu'il ne connaissait pas, il ne contrôlait pas. Et alors, il doutait un petit peu de l'efficacité de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait en état d'hypnose. Et il avait surtout peur de commettre des erreurs. Et il ne voulait pas renouveler l'expérience, sachant qu'il n'avait aucune notion médicale et thérapeutique. Rappelez-vous, il lisait la Bible, son seul souci c'était de venir en aide aux autres. Alors, la peur de commettre une méprise, ça le travaillait beaucoup. Mais Len, lui, son ami Len, insistait et il lui demanda de faire même une lecture pour lui, parce qu'il souffrait depuis des années de l'estomac. Alors il obtint de Case, endormi, l'ordonnance contenant le remède qui allait le guérir. Et malgré le recul de Len, malgré le recul de Case, Len suivit les instructions et fut guéri. Alors, émerveillé par ce qui se produisait, Len proposa à Edgar de mettre à sa disposition un endroit, un local, afin qu'il puisse effectuer des lectures en toute tranquillité et même de recevoir donc des malades, quoi, un peu comme un cabinet médical. Il était réticent et il craignait d'être amené devant les tribunaux, d'ailleurs, il avait bien pressenti, pour exercice illégal de la médecine, bien sûr. Bon, il finit par accepter à condition que jamais, alors c'était une condition qu'il avait posée, jamais il ne voit ni ne sache le nom de ses patients. Alors bon, Len, si on veut dire son suggestionneur, avait étudié l'ostéopathie et pouvait même la pratiquer. Il connaissait aussi les produits à utiliser comme les médicaments. Il pouvait préparer les remèdes de bonne femme que donnait Case, tout ce qui est à base de plantes. Sa médecine d'ailleurs était naturelle. Et les résultats étaient stupéfiants. Les gens affluaient de tous côtés pour être soignés. Case guérit et sauva des vies. Dans cet état hypnotique, Case avait le don extraordinaire de voir à l'intérieur du corps humain. Les organes malades, il les décelait. Il décrivait exactement tous les symptômes pathologiques de la maladie, qui n'étaient pas toujours situés dans le temps présent, mais quelquefois, comme je le disais tout à l'heure, remonter à des vies antérieures. Et sa voix, comme je le disais tout à l'heure, n'était plus la sienne pendant ses lectures. Elle prenait parfois même un accent étranger. Case donnait le traitement thérapeutique, parfois psychologique, et ceci dans un parfait langage médical, alors qu'il n'a aucune étude, rappelez-vous, à l'école, c'est pas son truc. Quelque part, son rêve d'enfance réalisé. Il pouvait aider les gens. Ce qu'il refusait, c'était la façon dont cela se passait. Et à plusieurs reprises, il voulut entreprendre des études de médecine et cesser ses lectures. Mais il devait en être autrement, car à chaque fois que Kess prenait la décision d'arrêter ses consultations, il perdait la voix. Si c'est pas un signe, ça.
Ça veut dire qu'il n'avait, voulait pas, là-haut, voulait pas qu'il arrête.
Et il l'a retrouvé à condition d'accepter.
D'accepter.
De recevoir les malades. Ah, et voilà.
Sacré médiumnité, hein.
Il continua donc, un petit peu forcé, mais il refusait toute rémunération. C'était pas question de se faire payer. Alors il le faisait à contre-cœur, et même sa famille lui faisait la morale en répétant qu'il devait soigner son prochain puisqu'il en avait le don. Alors c'était un médium qu'on appelle intuitif. Mmh. Et voyant à incorporation, hein, si vous avez fait d'autres séances, vous devez avoir parlé de ça, je suppose.
La deuxième émission, ouais. Voilà. Celles et ceux qui veulent écouter, qui ne savent pas trop, qui ne comprennent pas, c'est en podcast, en rediffusion, n'est-ce pas, sur le site de la radio, Pacific FM, hein, je rappelle. Voilà.
Donc, Kess refusait l'idée d'être contrôlé par un esprit. Ça se comprend, un peu comme tout le monde, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, hein. Alors, il affirmait qu'en état de transe, il se trouvait dans une bibliothèque où tout ce qui existe depuis le début des temps était conservé et que la vie de chaque être humain y était écrite. Il utilisait le mot d'origine indienne, Akasha, ce qui signifiait dans la tradition ésotérique occidentale le livre de la vie ou alors la conscience universelle. Bon, ça, c'est des choses que vous retrouverez dans tout ce qui est spiritualité orientale aussi, hein. Alors Kess ne s'endormait pas pour se reposer, hein, puisque les mystérieux informateurs qui s'exprimaient par sa voix l'avaient mis en garde. Pas plus de 2 lectures par jour, sinon il risquait pour sa santé et même sa vie. Mais les gens affluaient par milliers.
Ça va vite, hein.
Eh oui, et il ne pouvait pas refuser de les soigner. Alors il donna jusqu'à 6 à 7 lectures par jour. Et il n'avait pas besoin de la présence physique du malade pour donner son diagnostic.
Je comprends.
Il pouvait décrire ce que des amis de Lane, partis en France, ressentaient dans les détails. Détails qui furent confirmés à leur retour. Pour ça, je disais tout à l'heure, médium intuitif. Mm-hmm. Les consultations avaient donc lieu parfois à distance. La seule obligation du malade était de prier ou de méditer pendant 1 heure. C'était en 1924 qu'il accepta d'être ce qu'il était, guérisseur médiumnique.
D'accord.
Il y consacra tout son temps et finit par se résoudre à prendre des honoraires puisqu'il fallait bien qu'il mange.
Oui. Hein? Ah bah oui. Bon. Oui.
Alors, on pourrait passer raconter un petit épisode dramatique qui l'a vraiment poussé à faire ça, justement, je veux dire professionnellement. Son ami Khan, dont on a parlé tout à l'heure au tribunal, avait un jeune frère, pour qui Kess avait fait une lecture. Il était malade, ce jeune garçon. Mais aucun médecin ne voulut délivrer l'ordonnance de Kess. Il fallait des produits spéciaux qu'on ne pouvait avoir que sur ordonnance, mais les médecins ne voulaient pas les délivrer. Et le jeune frère de Khan décéda. Alors c'est à la suite de ce décès que Khan et Kess décidèrent d'ouvrir un hôpital avec des médecins qui y appliqueraient les traitements de Kess. Ça nous fait penser un peu au Padre Pio.
Oui.
Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais qui a aussi construit un hôpital pour justement recevoir beaucoup
Bonne
de
malades. Bonne nouvelle, tu reviendras.
D'accord, on reviendra.
L'année prochaine.
On en parlera.
On a une autre date avant la fin d'année avec toi. Oh, on va prendre un abonnement avec Gabriel.
Hein. Oh, c'est gentil. Mais vous allez vous lasser.
Oh non, je pense pas. Non.
Alors bien sûr, comme tous les jeunes, ils sont pleins d'espoir, ils sont ambitieux. Ils espèrent avoir les dons, recevoir des subventions par-ci, par-là. Ils comptent sur la générosité des milieux pétroliers, parce qu'à cette époque-là, aux États-Unis, c'est la grande époque du pétrole.
Oui. Hein. Oui.
Rappelez-vous James Dean avec les pétroles, les compagnies pétrolifères, c'est un film culte, ça. Hein, c'est vraiment.
Ah, tu sais, nous on a commencé à Robocop, hein, donc les années 90.
Vous êtes trop jeune. Non, mais il faut lire sur Internet, il y a ça.
On ira voir ça sur Internet. Voilà. On sait
donc,
que tu es un fan.
C'est l'époque où les puits de pétrole démarrent aux États-Unis. Il y en a un peu partout.
Je plaisante en fait, mais ça me dit quelque chose ton film.
Ouais. Oui. Oh bah c'est pas grave.
Quand même, hein. Moi je suis de l'époque lui de Funès, hein,
c'était pour dire qu'il y avait beaucoup d'hommes d'affaires très riches qui pouvaient donc tout au moins ils supposaient qu'ils pouvaient subventionner cet hôpital. Bon, ils reviennent en fait les poches vides, hein, parce que évidemment Ceux qui en ont le garde, hein, l'argent c'est comme ça. Et c'est avec, en fait avec l'aide d'un jeune agent de change de New York qui s'appelle Morton Blumenthal que Kes s'installe en 1924 à Virginia Beach. Pardonnerai mon accent américain parce que bon, moi non plus l'école c'était pas trop mon truc, enfin surtout l'anglais. Et là, ses rêves commencent à se concrétiser. Un hôpital sera construit sous le nom de Association for Research and Enlightenment, c'est-à-dire en fait une fondation Kes qui est l'endroit où seront archivées toutes ces lectures, parce que ces lectures seront sténographiées, seront écrites, et il y en a à peu près 2500 qui sont archivées dans cet hôpital. Je voudrais revenir sur un point
important. Eh ben, tu reviendras
juste après.
Non pas une page de pub, mais une pause musicale.
À tout de suite.
Laurent, je te laisse le luxe.
Détendons-nous.
Enquête spirituelle, chaque semaine avec Thomas et Laurent.
Et avec notre invité également, Gabriel et Amy, qui va nous rappeler le numéro de téléphone.
Oui, n'hésitez pas à nous appeler au 069 730 332 ou depuis la France et l'étranger, 0032 69 730 332.
Donc si vous voulez intervenir, raconter des histoires que vous connaissez peut-être sur Edgar Cayce ou alors donner votre avis sur l'émission, eh bien c'est fait pour ça.
Exactement, et on est toujours avec notre cher Gabriel qui nous vient de France, de Douai. C'est ça, t'es de Douai, hein?
Oui, pas exactement, mais je suis né à Douai.
Et j'ai oublié de préciser, cher Gabriel, avant que tu nous reparles d'Edgar Cayce, que tu fais... On a eu il y a deux semaines donc la présence du chaînon de Douai, et toi tu y es aussi, et tu donnes de l'enseignement spirit, hein?
Oui, je parlerai plutôt d'initiation.
Initiation, d'accord.
Initiation spirit, puisque nous sommes affiliés à la Fédération Française...
De spirit et francophonie.
Voilà.
Ok. On entend une petite musique de fond.
Ah, c'est ton.
Oui, un téléphone qui était. Qui est resté allumé.
Il y a un téléphone. Ça doit être celui d'Emmy, à mon avis.
Peut-être. Ok. Qui veut participer à l'émission.
D'accord, ok. Bon. Alors. C'est pas grave. Allez, on continue avec Edgar Cayce. Bon, on y va.
Je voulais justement revenir sur cette médecine qu'Edgar Cayce va développer parce qu'il est en quelque sorte le père de cette médecine. Nous, ce qu'on connaît en Occident, on pourrait l'appeler la médecine de plombier. Alors pourquoi de plombier ? Ben, c'est un petit peu quand on soigne un organe localement, on réussit pas forcément d'ailleurs à le guérir. Quelquefois, on le guérit. C'est un peu comme un plombier quand il y a une fuite. Ben, il soigne la fuite là où elle se produit, mais il cherche pas à savoir pourquoi il y a une fuite. Il soigne la fuite. Même chose avec, je sais pas moi, un médecin, votre médecin.
Oui.
Traditionnel.
Bien sûr, médecin traitant, généraliste.
Voilà, vous avez mal au ventre, il va vous donner un médicament pour le ventre. Il va pas chercher à savoir pourquoi vous avez mal au ventre,
ah non.
Tout ça bien.
Oui.
Il va attendre peut-être quand on se
mal au ventre, c'est du space fond, tu vois, mais je peux me faire le médecin généraliste aussi. Hein.
Ouais. Bon, à force, on connaît.
Oui, à force, on pourrait même le faire. Ouais.
Voilà, non, mais c'est-à-dire que l'origine du mal peut être.
Bien d'autres choses.
D'autres choses. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on soigne juste l'endroit qui est douloureux et c'est tout. On s'arrête là, alors que quelquefois il vaudrait mieux chercher la source pour éviter que ça se reproduise et que ça soit vraiment guéri. Alors cette médecine-là, moi je l'appelle la médecine de plombier. Mais Cayce, lui, c'est différent. Parce qu'il soigne l'affectif, le mental, qui a fait naître cette maladie. Comment je vais dire ça ? La médecine de Cayce, c'est comme un tout. C'est-à-dire, il y a trois corps. Il y a un corps physique, qu'on connaît bien, c'est celui que la médecine de plombier soigne. Il y a le corps mental. À la limite, on a encore nos psys qui soignent ça. Hein, bon, mais ils ne soignent pas le physique.
Ah non.
Bon. Et puis, on a un corps spirituel. Et là, à part les curés, on n'a jamais trouvé personne pour soigner le corps spirituel.
Et le magnétiseur ?
Voilà. Bon. Et encore. Les magnétiseurs soignent beaucoup le corps physique.
Praticien Reiki ?
Bon.
C'est pas.
Ces trois corps ensemble, c'est ce que Cayce va soigner.
Ah oui.
Voilà. Et l'ensemble de ces soins, de ces trois corps, il appelle ça la médecine holistique.
D'accord.
Pour lui, c'est un tout. C'est pour ça que c'est indissociable, en fait. Il faut soigner les trois à la fois. Parce que on peut très bien soigner le corps physique et avoir des problèmes au corps mental ou spirituel, soigner le corps mental et avoir des problèmes au corps spirituel et inversement, un peu comme ça. L'important, c'est de soigner les trois pour ne pas avoir de récidive, en quelque sorte. Donc, ce qu'il fait, il commence par donner une analyse astrologique. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Ben non.
Globale de son client, en relation avec ses différentes vies antérieures. Donc, c'est une astrologie qui va dans les vies antérieures.
Donc, c'est en quelque part, c'est une astrologie karmique.
Voilà, on appelle ça comme ça.
On aura l'année prochaine.
Puis, il fait une analyse spirituelle, mentale, émotionnelle. Et enfin, une analyse du corps physique. On voit que ces lectures sont vraiment très complètes. Hein. Et il montre comment ce dernier, c'est-à-dire le corps physique, est affecté dans sa santé et dans ses émotions par le corps mental et par le corps spirituel.
Ça va dans les deux sens.
Ce que refuse en fait la médecine traditionnelle, c'est que le spirituel ou le mental puisse affecter le physique.
Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément, on pourrait penser plus l'inverse, quoi.
Voilà, exactement. Ouais, exactement. Alors Caisse, lui, ne dissocie jamais ce tout, qui est une entité en quelque sorte, hein, et toute lecture a pour but d'aider cette entité à coordonner ses trois corps, à les synchroniser, à les harmoniser, de façon à être enfin une. C'est notre entité, nous sommes ça en fait.
Tout à fait, hein. Entité, bien sûr. Hein.
Alors pour Caisse, l'état de perfection que nous devons atteindre se définit par l'unité absolue, la correspondance parfaite de nos trois corps, enfin harmonisés, synchronisés, c'est ce qu'il appelle « oneness ». On traduit par l'unité, quoi. Mm-hmm. Hein, ou l'intégration harmonieuse de tous ces corps en un seul tout, quoi. Tout cela, c'est la loi de 1. Et c'est toute la philosophie caissienne. Vous savez qu'il existe, j'ai vu récemment dans certains journaux, des écoles de sophrologie caissienne. Mm-hmm. Hein, ça se fait de plus en plus. Et qui prennent donc ces principes-là, en fait.
Mm-hmm.
Alors, ce que je voudrais faire maintenant, Thomas, ce serait de donner quelques extraits de ces lectures.
Hein. Qu'il en soit ainsi.
Juste pour voir un petit peu ce que c'est.
C'est intéressant.
Alors, je vais donner quelques numéros pour bien préciser. La lecture, par exemple, 4021, paragraphe 1. Alors là, je cite forcément. Hein. « Personne ne peut haïr son voisin sans avoir une maladie d'estomac ou de foie. Personne ne peut être jaloux et se laisser aller à la colère sans avoir des troubles digestifs ou des problèmes cardiaques. Mmh. » Vous le remarquez que c'est souvent vrai.
Ouais.
Mais on ne se pose pas toujours la question. Lecture 14-39-31. La peur est la racine de presque tous les maux de l'humanité.
Oui.
Peur de soi, peur de ce que les autres pensent de vous, peur de l'image qu'ils ont de vous, etc. Surmonter la peur, disait Caisse, c'est remplir son être mental et spirituel de ce qui chasse la peur, c'est-à-dire l'amour manifesté dans le monde à travers celui avec un grand C. Hein, qui s'est donné pour payer la rançon de beaucoup d'entre nous, donc allusion au Christ. Hein. L'amour, la foi, la compréhension de ces lois chassent la peur. Et c'est vrai que tout être croyant, peu importe la religion, mais qui a vraiment une foi sincère, n'a pas peur ni de la vie terrestre, ni de la vie spirituelle. Il a confiance et la peur s'en va.
Hein. Je comprends.
Lecture numéro 2.14. Un avertissement pour tout être humain. La colère est un poison pour tout l'organisme.
Ouais, c'est vrai.
Hein? Lecture 470-19. Garde une attitude constructive. Ne te laisse pas dominer par le ressentiment. Car cela, tout naturellement, produit dans l'organisme ces sécrétions qui nuisent à la bonne marche des différents systèmes. Circulatoires, digestifs, respiratoires, etc. Et c'est le cas, spécialement dans les troubles provoqués par le cafard, comme on dit.
Ouais.
Lequel dérègle le pancréas et certaines des fonctions hépatiques.
Ouais.
D'ailleurs, ne dit-on pas « ne te fais pas de bile ». C'est bien une sécrétion qu'on se fait quand, justement, le mental ne va pas.
Mmh. Ah oui. Oui, c'est vrai.
Alors, revenons un peu sur l'obligation de prière et de méditation que Caisse demandait à ses patients. Pour cela, il est intéressant de citer quelques extraits de lecture dans lesquels Caisse met en avant l'harmonisation de nos trois corps. Le premier pas vers la guérison est la méditation. Lecture 281-41. Qu'est-ce que la méditation? Je ne vous pose pas la question, je vous donne la réponse de Caisse. C'est chercher à rebrancher son corps mental et son corps physique sur leur source spirituelle. C'est mettre ton physique et ton mental en résonance avec le Créateur, en cherchant à connaître tes relations avec lui. C'est cela la vraie méditation. Donc à méditer.
Oui, tout à fait.
Oui. Exactement.
Alors, lecture 1967-1. Par-dessus tout, prie. Pour tout ce qui concerne le corps, fais confiance aux forces spirituelles. Car la prière des justes guérira les malades. Sache que toute force, toute guérison, de quelque nature qu'elle soit, consiste à modifier les vibrations du moi intérieur. La guérison consiste à mettre les tissus vivants du corps en résonance avec les énergies créatrices, ou si vous voulez, Dieu. Hein ? La guérison, c'est cela, que ce soit fait par un médicament, par un scalpel chirurgical, ou par n'importe quoi. Il s'agit de mettre la structure atomique de la cellule vivante, cette énergie cellulaire, en résonance avec sa ligne de vibration spirituelle. Ainsi, par la prière, et si vous vivez jour après jour dans la ligne de votre prière, vous pouvez aider votre corps. Alors maintenant, je voudrais vous citer des chiffres. On va parler chiffres, mais c'est très très important. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, d'extraordinaire, je dirais même. Parmi les 14 256 lectures qu'il a données.
Oui,
c'est le chiffre officiel hein, des lectures d'Edgar Cayce à partir du moment où il a pris une secrétaire en 1921. Il en avait fait même plus, parce qu'avant il en faisait déjà. Eh bien, à peu près 8000, écoutez bien ce que je dis, 8000 d'entre elles sont consacrées à des personnes condamnées par la médecine officielle. Ouais. Pour dire, vous connaissez des excellents médecins, chirurgiens qui ont sauvé des vies de personnes qui étaient condamnées. Ça arrive. Hein, il peut en sauver une, deux, trois, quatre, cinq vies. Ouais. Mais 8000.
Ouais, c'est plus des deux tiers de ces lectures. Quoi.
Bon, là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de.
Ah non,
Il n'y a rien à dire là.
C'est fait.
8000 cas c'est de personnes condamnées. Ouais. C'est impressionnant. Alors, je voudrais vous exposer un cas célèbre que vous pourrez lire d'ailleurs en détail dans un livre de Joseph Millard qui s'appelle Edgar Cayce, l'homme du mystère. C'est dans les éditions J'ai lu, 1972. C'est un cas que rapporte également Eric Pigani, qui est un gars de chez nous, du Nord, de la France.
Du Nord, hein.
Oui, qui est un psychologue et journaliste. Et il relate aussi ce fait dans son livre intitulé Channels.
D'accord.
Aux éditions H du Verso en 89.
Ouais.
Alors, si j'ai le temps, parce que là, c'est une
lecture. Tu n'auras plus le temps, puisqu'on va devoir rendre l'antenne, non pas à Kyo ni à Gé, mais.
J'ai trop parlé.
Non, au contraire, c'est du bonheur. Mais à Laurent, et puis il y a les actus, la pause musicale et tout le toutim, et on se retrouve.
Juste après 20h, après les infos de 20h.
T'es ami, elle va rappeler le numéro de téléphone.
N'oublie pas, on est ensemble jusqu'à 21h.
21h
à la fin de l'émission.
Ah, non, certainement pas, restez avec nous, hein,
on
ne zappez pas.
On a des choses à dire.
Oh, plein.
Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, des témoignages ou envie de participer à cette émission au 069 730 332 ou 00 32 69 730 332.
Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Thomas et Laurent.
De retour dans Enquête spirituelle, jusque 21h, bien évidemment, avec Thomas et notre invité qui nous parle de Edgar Cayce, et c'est une très 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 belle histoire d'ailleurs, c'est très intéressant. Et n'oubliez pas non plus, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, on n'a pas encore rappelé, vous tapez Enquête spirituelle dans Facebook et vous pourrez nous retrouver le groupe avec toutes les infos concernant l'émission, et bien évidemment sur le site de Thomas aussi, thomasmedium.com, et sur le site de la radio en podcast, www.pacificfm.be. Voilà, toutes les annonces sont faites comme ça.
Merveilleux. Merveilleux, on sait tout grâce à toi Laurent.
C'est bien de le rappeler.
Mon Dieu, la Bible de la radio est en face de nous. et là, la Bible d'Edgar Cayce est en face de nous également.
N'exagérons rien quand même.
Oh, il n'y a pas qu'Edgar Cayce, hein, t'en as plusieurs sous ton.
Oui, mais
on parlera à la fin.
J'aime ça.
C'est génial. On parlera à la fin du programme, hein, comme d'habitude. Ok.
Oui.
Nous voilà avec Edgar Cayce. Qu'est-ce que tu peux encore nous raconter sur Edgar Cayce?
Eh bien, je voulais vous citer un extrait d'un livre, justement, d'une lecture. Dans les livres que je vous ai donné les coordonnées tout à l'heure, je peux vous les rappeler. Le livre de Joseph Millard, Edgar Cayce, L'homme du mystère.
D'accord.
Aux éditions J'ai lu en 72. Et puis, donc ça a été traduit hein, de l'américain. Hein. C'est Edgar Cayce, Man of Miracles. Donc c'est une histoire vraie donc, hein, que je vais vous raconter d'une dame qui s'appelle Suzy. Une jeune fille même, on pourrait dire. Enfin, une jeune dame. Suzy regardait autour d'elle, surprise, rien ne pouvait lui laisser croire qu'elle se trouvait dans la maison d'un aussi éminent personnage. Elle s'attendait à tout, sauf à ce spectacle de simplicité et d'accueil. Une vieille natte de jute sur le plancher, un divan poussé contre le mur, une chaise de bois toute simple, un classeur des années 20, Une vitrine pleine de coquillages, de souvenirs, d'objets hétéroclites. Et au-dessus de la porte, les portraits de Lincoln et du général Lee. Sur les murs, des dizaines de photos, toutes dédicacées, et de modestes tableaux évoquant des sujets religieux. Derrière un antique bureau, encombré de piles de papier, un personnage se lève, grand, mince, visage rond et cheveux clairsemés. Des yeux gris-bleus pétillent derrière une paire de lunettes. Permettez-moi de vous présenter Edgar Cayce, dit Gertrude, la femme du médium, en invitant Suzy à s'avancer. J'ai prié pour votre guérison, répond Edgar en prenant doucement la main de la jeune femme. Je n'ai pas l'habitude de promettre quoi que ce soit, parce que vous allez entendre des choses qui ne m'appartiennent pas. Suzy était stupéfaite, vraiment. Elle avait toujours pris Cayce pour un charlatan, un escroc, et l'avait clamé à qui voulait l'entendre. Elle s'était imaginé rencontrer une sorte de fakir ou de gourou, hautain, vivant dans une maison somptueuse, mais rien de tout cela ici. Non, elle se sentait subitement bien, en confiance, et si proche de cet homme qui inspirait une sympathie peu banale. Même sa voix était humble, presque timide. Et puis, elle avait contracté cette maladie, condamnée, avaient dit les médecins, la tuberculose. En 1943, ne se soignait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Elle s'était décidée à faire ce voyage en Virginie parce que c'était son dernier recours. Toute la presse en parlait depuis longtemps. Ce personnage avait un don étrange, il s'endormait et faisait des diagnostics médicaux exacts, assortis de suggestions de traitements qui réussissaient à 90%. Parler en dormant, déjà c'était un peu bizarre et malsain. Mais guérir les gens en plein sommeil, non, elle ne pouvait pas y croire. L'expérience lui donnerait le fin mot de toute cette affaire. De toute façon, elle n'avait plus rien à perdre. Un bloc de papier à la main, une femme blonde de belle prestance entre dans le bureau et se présente. C'est Gladys Davis, la secrétaire de Cayce. Elle prend place auprès du divan et invite Suzy à s'asseoir. Edgar s'allonge, dénoue sa cravate, place ses deux mains sur son front, les paumes ouvertes. Gertrude caresse doucement sa joue, il respire lentement, puis pose ses mains croisées sur sa poitrine, il ferme les yeux. Deux minutes plus tard, Gertrude commence la suggestion qui va amener le channel dans un état de transe. Durant un petit moment, Edgar marmonne entre ses dents, puis répète la suggestion que son épouse vient de lui faire. Respire difficilement, puis la voix sort, claire, affirmative. Il explique alors que Suzy a une infection pulmonaire qui déstabilise tout son organisme. Les causes de cette infection proviennent de pressions dans le système cérébro-spinal qui ont épaissi les tissus et provoqué une pression considérable sur les cavernes des poumons. Puis il continue en décrivant l'accumulation de toxines qui auraient normalement été éliminées par des poumons sains. La jeune femme est d'abord surprise par ce discours médical assez complexe. Mais elle reçoit un véritable choc électrique lorsque Cayce explique que sa maladie a été causée par un traumatisme de l'épine dorsale et que son état s'est aggravé à la suite d'inhalation de poussière. Personne sauf sa mère, ne pouvait savoir que 15 ans plus tôt, elle était tombée d'un arbre et s'était blessée le dos. Ensuite, il était vrai qu'elle avait travaillé dans la banlieue de New York et avait respiré plus qu'à l'ordinaire toutes sortes de poussières, de suie, de vapeur dégagée par les usines des environs. Elle comprend alors que le médium est un être peu ordinaire. Enfin, Edgar Cayce commence la partie de la lecture la plus importante pour la jeune femme. Est-il possible de la soigner? La réponse est positive. Il, ou tout au moins cette voix qui parle à travers lui, conseille de préparer un petit tonneau de chêne brûlé à l'intérieur, de le remplir d'eau-de-vie de pomme et de s'en servir pour faire des inhalations 3 ou 4 fois par jour. Il poursuit avec d'autres instructions. Exercice particulier de la colonne vertébrale, régime sévère, interdiction de boire du lait cru parce que la maladie se nourrit des protéines fraîches. Enfin, il termine la séance en donnant le nom d'un médecin qui possède l'appareillage nécessaire près de chez elle. Le médium pousse un profond soupir, ouvre les yeux et se lève en bâillant. « Vous avez obtenu un résultat » demande-t-il. « Tout, » répond Gladys en souriant. « J'ai noté le descriptif de l'état de Suzy et ce qu'elle devait faire pour guérir. »« Vous savez, » ajoute Gertrude sur le ton de la confidence. Quand il se réveille, nous poussons toujours un soupir de soulagement parce que nous avons déjà eu des problèmes. Au début, les médecins s'amusaient à lui enfoncer des aiguilles un peu partout dans le corps pour voir s'il ne sentait rien. Bien sûr qu'il ne sent rien, mais au réveil, c'est autre chose. Seul notre fils et moi avons maintenant le droit de diriger les séances, et cela peut présenter des risques. Suzy rentra chez elle pour suivre à la lettre les indications données par le médium. 3 mois plus tard, le médecin qui la suivait était stupéfait. Elle avait retrouvé de bonnes couleurs, avait perdu des kilos inutiles, et les pneumothorax n'étaient plus nécessaires. « Je me demande bien ce que vous avez fait, mais continuez, lui dit-il, en baissant les bras. » Et lorsqu'elle retourna consulter Kess, elle se sentait mieux que jamais. Enfin, complètement guérie, elle se maria et mena une vie active et heureuse, un peu comme dans les contes de fées. Je voulais vous raconter cette histoire parce que ça fait partie d'une des 8000 rescapés de la mort. Hein, que si elle était restée
intéressant.
Dans les mains de la médecine traditionnelle, cette dame n'aurait pas eu d'avenir.
Ouais. Hein. D'accord.
Alors quand même, je rappelle, 8000 cas sur plus de 14 000 lectures, 8000 cas désespérés, condamnés par la médecine traditionnelle. C'est énorme. Mm-hmm. Hein. Alors, qu'est-ce que c'était donc que ces médecines douces de Kess? Bien, on peut en parler. Hein. Il est important de savoir ce que Kess a encouragé le renouveau des médecines douces, parce que ça existait déjà depuis l'Antiquité. Hein. Il l'a pas inventé, ça. Hein. Alors, on va commencer par la phytothérapie. Alors, la phytothérapie, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un soin avec des plantes de toujours, par exemple l'huile de ricin. L'originalité de Kess est de l'avoir recommandé par voie externe et très peu par voie interne. On a tous le souvenir de la purge que nos parents, enfin peut-être pas, non, vous êtes trop jeunes. Ah oui, c'est là qu'on se sent vieux. Quand on était jeune, pour faire une purge, on nous faisait avaler de l'huile de ricin,
oui,
ou de l'huile de foie de morue.
J'ai entendu parler, oui.
Donc c'est par voie interne. Mm-hmm. Mais Kess, lui, l'a recommandé par voie externe. Bon, c'était un cauchemar, hein, cette huile. Bon. Sa façon de l'employer, ce sont des cataplasmes, en fait, des cataplasmes chauds posés sur la peau. Et Kess l'a prescrite près de 570 fois dans sa lecture. Alors, qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'huile de ricin par voie externe en cataplasme chaud? Vous allez me dire, on peut pratiquement tout soigner, ou presque tout. Hein. Les oignons, les verrues, les dermatoses, les kystes, les tumeurs bénignes, mais aussi les tumeurs malignes, par exemple les cancers de la peau, du sein, où Kess a obtenu des succès définitifs. Ce qui est assez extraordinaire quand on sait aujourd'hui le mal que les scientifiques ont pour soigner le cancer. Je ne dis pas que Kess soignait tous les cancers, hein, il ne faut pas non plus exagérer, mais il a eu des résultats positifs. Par exemple, le cancer donc de la peau et du sein. Mais on soigne aussi des graves désordres internes qui n'apparaissent pas toujours au niveau cutané, au niveau de la peau. Hein, comme des cystites ou des cholécystites, des coliques hépatites, très douloureuses, hein, des coliques néphrétiques aussi, très douloureuses. Tous les problèmes hépatiques et digestifs de façon générale, tout ce qui est colite, colique et constipation, appendicite, les rhumatismes, les maux de tête, l'épilepsie, les néphrites et toutes les fièvres. Bon, vous voyez, c'est une espèce de panacée, cette huile de ricin. Hein. De nombreux médecins qui ont fait des recherches sur les remèdes kessiens ont confirmé l'efficacité puissante de l'huile de ricin, mais aussi de l'huile d'olive, le bouillon blanc, les amandes, etc. Tous ces corps gras. Donc, le bouillon blanc étant une plante, hein. Les amandes, bon, que vous connaissez, mais qui sont riches en huile, exactement. Encore utilisée aujourd'hui surtout pour les cosmétiques, hein, l'huile d'amande, mm-hmm. l'huile d'amande douce. Mm-hmm. Mais on l'utilise aussi, l'huile d'amande douce, comme base pour les huiles essentielles. Quand on veut les mélanger pour avoir quelque chose de plus...
D'accord.
Moins fort, quoi. Alors ça, c'est ce qui est la partie phytothérapie. Ensuite, il y a les oligo-éléments.
Oui.
Ouais, on en entend parler. En pharmacie, on trouve des petites boîtes avec des oligo-éléments.
Alors, Kess
affectionne particulièrement les cataplasmes pour utiliser les vertus de l'oignon, du raisin, mais aussi du miel, du sel marin, du sable ou de l'argile, de l'or, de l'air, de l'eau, etc. Hein? Tous ces oligo-éléments, il les utilise en cataplasme. Alors, les vertus de l'eau, ou appelée aussi hydrothérapie, qui s'est développée ces 20 dernières années un peu plus comme les hydromassages, par exemple. Hein. L'hydrothérapie, c'est préventif, aussi préventif que curatif. L'hydrothérapie permet le nettoyage général de l'organisme, qui rétablit le fonctionnement général de celui-ci en éliminant les poisons, hein, les toxines, en soulageant les zones congestionnées, sans quoi les maladies risquent ensuite de devenir plus aiguës. Mm-hmm. Donc l'hydrothérapie, c'est utilisé dans les centres balnéo.
D'accord, oui, tout à fait. Ouais.
Mais tout le monde connaît les vertus des eaux, que ce soit des viandes, de contrex, oui, etc.
Pas loin d'ici, Saint-Amand.
Ou Saint-Amand. Hein. Mm-hmm. Bon. Alors il faut exercer son corps aussi. Exercer son corps, lorsque les anciens disaient « mens sana in corpore sano », hein, ce qui voulait dire un esprit sain dans un corps sain.
Oui.
Ben, ça voulait bien dire que il fallait avoir la maîtrise de son corps physique,
oui,
avec le corps
spirituel.
Mental et spirituel.
Mental et spirituel.
Plus mental que spirituel dans le corps aussi. Et celui qui méprise son véhicule terrestre, comme dirait Saint François d'Assise, n'a pas encore atteint la sagesse. De l'effort quotidien pour purifier et assainir notre corps, il y a de grandes leçons spirituelles à tirer. Donc, faire le sport, c'est bien, mais c'est pas seulement pour le corps, c'est aussi pour l'esprit. Caisse dit que chacun d'entre nous doit absolument pratiquer un exercice physique quotidien. Pas tout, bon, il y a une demi-heure, quelque chose comme ça, mais un exercice quotidien. Donc, que ce soit de la marche, du sport, ça, ce qu'on veut, quoi. Hein. Les massages. Alors les massages, Caisse a beaucoup insisté sur l'importance des massages. Il liait l'efficacité des massages à l'emploi d'huile végétale. Bon, qu'on connaît toujours dans les massages orientaux, on met toujours de l'huile, alors que ce soit de l'huile d'arachide, d'huile d'olive, etc. Dans toutes les maladies où le système nerveux est défaillant, Caisse ordonnait des massages. Il considérait aussi que c'était de toute façon un traitement préventif contre les rhumatismes. Si j'avais su, je l'aurais utilisé.
Ah oui, c'est clair.
Eh oui, vu mon grand âge.
Arrête avec ça. Laurent plus moi, on est... Ah ouais, un peu plus quand même.
Ah oui, au moins.
On va arrêter un petit peu, et puis on reprend avec Edgar Cayce tout à l'heure, et puis Laurent va nous mettre une plage musicale.
Nouveau James Blunt avec Stay the Night.
Qu'il en soit ainsi.
Spirituel, enquête spirituelle, chaque semaine avec Thomas et Laurent.
De retour dans cette émission Enquête spirituelle jusque 21h, bien évidemment. Si vous avez un avis à donner sur l'émission ou quelque chose à dire, vous nous appelez bien évidemment au numéro de téléphone
069 730 332 ou depuis la France et l'étranger 00 32 69 730 332.
Et via aussi le Facebook de l'émission et le site de la radio.
Je ne suis pas trompé sur le site de la radio, il y a un sondage aussi.
Oui, pour savoir. Bon, alors, bien vu ça, bien vu.
Je l'ai vu, hein, j'ai rien fait, mais allez sur la site, vous allez sur le côté, vous voyez enquête spirituelle, vous cliquez dessus, je veux voir enquête spirituelle en haut de tout.
Ah, il y avait déjà pas mal de votes, donc ça n'hésitez pas.
Il y a eu beaucoup de votes.
PacificFM.be, il doit avoir déjà une dizaine de votes pour nous, c'est bien. Hein.
Une trentaine hier, mon cher Laurent.
Ah, bah bon.
J'ai vu 30, moi, hier.
T'étais plus rapide que moi.
Bah, j'ai vu en haut, je sais plus qui c'est qui a récolté, je sais pas combien de voix pour le moment.
C'est Culture Buzz.
Culture Buzz. Ouais, bon, bah moi je
vois. Le dimanche.
Alors, votez pour enquête spirituelle, voilà, je l'ai assez dit. Non mais, hein. Alors on revient avec notre cher ami Gabriel qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être à la radio pour nous parler ce soir des Edgar Cayce, de ses prophéties.
Oui.
Tu as encore plein de choses à nous dire et même moi j'ai des choses à dire sur Edgar Cayce.
Écoutez, les prophéties, bon, tu en parleras très bien tout à l'heure. Là, je vais terminer un petit peu
bien
sur le côté médical, le soin.
Bien sûr.
Parce qu'il a travaillé sur énormément de spécialités, je vais dire. Mmh. Alors, on a parlé de l'hydrothérapie, on a parlé de massage, d'oligo-éléments, de phytothérapie. Là, il a aussi développé la médecine ostéopathique. Alors, l'ostéo, on sait ce que c'est. Et la contribution du système musculo-osseux à la santé générale est plus grande qu'on ne le croit, en fait. Les muscles et les articulations bloquées empêchent tout le système de fonctionner. Enfin, en vertu du principe holistique, dont on a parlé tout à l'heure, lorsqu'une maladie se manifeste dans une partie du corps, on peut la maîtriser en travaillant sur d'autres parties du corps. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, je vous donne un exemple. Une migraine provient souvent d'une vertèbre lombaire bloquée. On la débloque et la migraine s'arrête. Ouais. Donc, ouais, on va chercher la raison profonde. On ne s'attarde pas sur la migraine. Mm-hmm. On va chercher la partie malade en réalité.
Ouais.
L'alimentation. Ça aussi, l'alimentation est un problème de santé. Que l'aliment soit ton médicament, c'est Hippocrate qui l'a dit, sous serment. Et Caisse est d'accord. Lecture 288-38, voilà ce que Caisse nous dit. Ce que nous pensons et ce que nous mangeons, combinés ensemble, fabriquent ce que nous sommes, tant physiquement que mentalement.
Ce que nous pensons, ce que nous mangeons, donc c'est notre esprit qui, comment je dirais ça, matérialise quelque part ce qu'on ingurgite actuellement.
En quelque sorte.
Bon, il y a un sacré problème sur Terre alors. J'ai vu, ça date d'hier, j'ai entendu ça sur une radio généraliste en France, qu'il y avait actuellement 47% de la population française en surpoids ou obèse. Ouais. La moitié. Et en Chine, alors carrément les Chinois ils étaient très minces, et ben aujourd'hui, pouf!
Alors on explique bien par exemple l'obésité ou plus exactement la boulimie par des problèmes d'ordre plus mental que physique.
Tout à fait.
Hein? Donc c'est un mal-être qui provoque un dysfonctionnement physique. D'ailleurs, bon, la lecture de 137-30 de Caisse nous donne des règles toutes simples, en fait, que je vous conseille d'appliquer, car elles sont vraiment très utiles. Ne mangez jamais lorsque vous êtes tendu, très fatigué, excité, ou bien très en colère. Vous ne devriez jamais vous alimenter à ces moments-là. Et aussi, ne jamais rien prendre dont vous n'avez pas envie. Donc avis aux parents angoissés qui forcent leur malheureuse progéniture à manger. Hein? La nourriture doit être avant tout un plaisir.
Ah oui.
Hein?
Oui.
Un plaisir.
On est bien d'accord.
Voilà. Alors, il y a un équilibre aussi base acide du corps et de la vaccination sur lequel Caisse insiste beaucoup. Il insiste sur l'incompatibilité de certains aliments entre eux. À cause de la nécessité de maintenir l'équilibre entre acides et bases dans le corps. Il dit que l'obésité, les angines, les désastres intestinaux ou stomacaux, etc., sont causés par un déséquilibre du pH dans tout le corps. Alors, Caisse peut préconiser la consommation régulière de carottes pour ne pas contracter des maladies contagieuses, car celles-ci construiront dans le sang un système de défense qui va immuniser la personne. Bon, je ne veux pas dire non plus que les carottes c'est la panacée, mais
c'est très bon
pour la santé.
Oui.
Il y a aussi la guérison par les pierres. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait spécial.
On en a parlé.
Vous en avez parlé.
Et oui, on en a parlé.
Deux semaines.
Non plus, mon cher ami.
Ça passe vite.
Il y a déjà 5 semaines.
Faux.
L'équilibre énergétique par le bien-être, développement du shiatsu, soit par les pierres chaudes.
Mais c'est de bon augure, mon cher Thomas, ce qui veut dire que l'émission dure.
Voilà.
Exactement. Exactement.
Fait. Alors dans sa lecture 531-3, voilà ce que Caisse dit sur les pierres. Il dit « Les pierres concentrent en elles les énergies cosmiques et c'est ainsi que s'explique leur pouvoir. Elles stimulent ou bloquent les fonctions du corps physique et du corps mental, mais pas toutes les pierres, ni pour tout le monde. Chaque personne est sensible à une pierre qu'elle devra porter, tandis qu'il y en a d'autres qu'elle devra éviter. » Alors j'imagine que vous en avez parlé.
Oui, tout à fait.
On va écouter en podcast.
Ouais.
Tu t'en souviens, Laurent?
Oui, il y avait des pierres qui étaient conseillées, d'autres pierres à éviter.
C'est pour voir si je suis.
Les minéraux, je suis.
Exactement.
Je vous conseille d'éviter la pierre tombale.
Oui,
on est d'accord.
C'est néfaste.
Je suis d'accord avec toi. Voilà. Oui, je me souviens qu'il y a, certaines pierres, enfin, le nom de certaines pierres selon l'énergie n'était que, et pour certains organes et pas pour d'autres.
Voilà.
Et la personne qui est venue nous en parler nous avait dit qu'elle utilisait 56 pierres. Qu'elle utilisait sur
possible
pierre chaude, tout ça, c'est incroyable. Voilà.
Hein. Alors on parle aussi du cristal.
Oui.
Je peux considérer que c'était une
le
pierre,
cristal, hein. Oui.
Pierre précieuse.
Enfin, les cristaux.
Donc. On est bien d'accord.
Voilà. Alors ensuite, plus gai, la thérapie par la couleur aussi. peut soigner par la couleur. Alors c'est la chromothérapie, ça s'appelle. Actuellement, ça se développe dans les hôpitaux, on utilise la chromothérapie. Hein. Alors que là, je vous rappelle quand même que nous sommes dans début 20e siècle quand même. Hein. Ouais. Alors là encore, Caisse fut un pionnier. Un pionnier parce que la chromothérapie, je vous rappelle, c'était en début de 20e siècle. Et dans sa lecture 773-1, voilà ce qu'il dit. Les couleurs ont une grande influence sur l'activité de l'entité, particulièrement celles qui ne sont pas trop éclatantes. Le violet, l'ultraviolet, certains tons de vert, le mauve, le rose. Les tons pastels, ceux que l'on peut qualifier de spirituels, influenceront davantage l'entité. Et lorsqu'elle sera sur le point de tomber malade, ses teintes douces calmeront ses maux, là où la médecine échouerait. D'ailleurs, on sait très bien qu'on utilise certaines couleurs plus ou moins excitantes. On ne va pas utiliser la même couleur dans une chambre à coucher que dans une cuisine. Dans une cuisine, on va utiliser plus des tons jaune, orange, rouge, qui vont stimuler plus l'appétit, la joie de vivre. La cuisine, c'est le cœur de la maison. Alors que dans une chambre, on aura des tons plus verts ou bleus, mm-hmm. hein, qui vont plus favoriser la détente et le sommeil. Mm-hmm. Le bleu, soi-disant, serait plus, aurait plus un côté sexuel. Mais bon, ça, il faudra demander aux orientaux si c'est vrai ou pas.
Ouais. D'accord.
Enfin, les couleurs ont, donc, agissent sur notre,
oui.
sur notre esprit. Alors, on peut aussi guérir par la musique. Mm-hmm. Donc, je vous rappelle encore une fois que c'est un pionnier, Edgar Cayce, parce que début 20e siècle, on ne soignait pas par la musique.
Ah non, oui, tout
alors qu'aujourd'hui,
fait.
C'est utilisé. Hein.
On rappelle quand même qu'il était de son époque, mais ses prophéties, justement, sont...
Voilà, on va en parler, ses
voilà,
prophéties. Hein.
Voilà.
Mais lui, donc, il l'appliquait. Alors, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut soigner par la danse, le chant, les sons. Mmh. Hein. D'ailleurs, vous connaissez tous, je suppose, les fameux moines tibétains avec le Aum. Ce n'est rien d'autre qu'un son. Mmh. Hein. La pratique d'un instrument, ça peut aussi aider à guérir. Hein. Alors, Caisse en a beaucoup parlé et recommande la musicothérapie. Hein, c'est le nom qu'on lui donne. Alors, vous pouvez lire d'ailleurs Edgar Caisse, Guérir par la musique. C'est aux éditions du Rocher, publié en 1989 par Dorothée Cochelin de Bizemont. Soin de Caisse, c'est l'aromathérapie.
Ah oui, l'aromathérapie, oui.
Et donc l'importance des parfums.
Oui.
Alors, ceux qui vivent au contact de la nature savent l'importance des odeurs dans la vie animale et végétale. Mm-hmm. De nombreuses lectures de Caisse en parlent pour souligner que nous devrions utiliser davantage les essences odorantes comme moyen de thérapie. Lecture 274-7, voilà ce que Caisse nous dit. L'une des plus grandes forces qui puisse influencer le corps physique de l'homme ou de l'animal est l'action des parfums sur les nerfs olfactifs du corps.
D'accord.
C'est bien sûr cette puissante action des parfums qui est fondée, l'aromathérapie. Vous avez sûrement entendu parler des huiles essentielles aussi.
Oui.
Et les parfums qui faisaient déjà partie des traitements employés en Égypte ancienne, c'est pas nouveau du tout, hein, pour guérir les malades. Selon Caisse, la lavande, par exemple, est une essence extrêmement importante, car elle élève les vibrations.
Ah oui.
Elle provoque aussi une désintoxication de l'organisme. Mais attention, utilisez la lavande naturelle. Caisse récuse l'emploi des essences de synthèse. Or, c'est ce qu'on trouve beaucoup actuellement dans les produits.
Ouais,
donc, n'utilisez que des huiles naturelles. Et puis avec beaucoup de précautions, parce que toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour tout le monde. Les dosages sont très importants, donc à manipuler avec beaucoup de précautions quand même. Hein.
C'est bien de le savoir.
Documentez-vous. De même, les fleurs de Bac, même chose.
Oui, hein, fleurs de Bac, oui.
À utiliser aussi avec beaucoup de précautions, parce que tout ne convient pas à tout le monde. Voilà, donc je voudrais conclure ce soir, après je laisserai la parole un petit peu à Thomas.
Pas de problème.
Sachez quand même qu'en 1940, les deux fils d'Edgar sont mobilisés. Edgar, il est submergé par les demandes de lecture, parce qu'il en donne jusqu'à 6 ou 7 par jour, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et sa santé n'y résiste pas, les voiles l'avaient mis en garde. Alors il est hospitalisé en 1944 à l'hôpital de Roanoke. Hein. Une crise cardiaque le laisse paralysé du côté gauche. Il est très affaibli. Il meurt le 3 janvier 1945, le jour de Pâques. Et en 1956, l'ARE, son association, rachète l'ancien hôpital Kess et y installe ses dossiers, en particulier la collection des 14 246 lectures dont je vous ai parlé. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur la vie de Kess, mais il y a aussi une autre partie dont je ne vous ai pas parlé, que Thomas va aborder avec vous, ce sont plus exactement ses prophéties.
C'est pas tout à fait prophétie en fait. Hein. Là, je vois que j'ai le. Moi, je reste à toutes les lectures.
En tout cas, on pourra parler peut-être un peu de l'Atlantide.
Ah, oui, à la fin, j'en parlerai. Là, j'ai vu qu'il avait donné plus de 14 000 lectures et c'est répertorié. Par exemple, 9 603 lectures existantes dans les lectures physiques. Dans les lectures physiques sont les lectures de santé, hein, comme t'expliquais tout à l'heure. Hein. Ensuite, il y a 1920 lectures existantes sur les lectures de vie.
Donc, j'ai cité un peu tout à l'heure des lectures de vie. Hein.
Voilà, après sur 747 lectures d'affaires, 630 lectures de rêves, 450 lectures mentales et spirituelles et 950 autres lectures. Quand même, assez costaud. Hein. Et je parlerai après la pause musicale des thèmes et en même temps, oui, de certaines prophéties que Edgar Cayce, on va dire quoi, cautionnait quelque part. D'accord ?
Oui, tout à fait.
Et donc, je les lirai et on les commentera ensemble.
Tout à fait.
À tout à l'heure.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Thomas et Laurent.
Et de retour dans Enquête spirituelle pour la dernière partie de l'émission. Bien évidemment, si vous avez loupé quelque chose, ce sera dès lundi en podcast sur Internet. Vous pouvez tout réécouter, bien évidemment. Et maintenant, on va parler des prophéties. Ça, c'est plus du côté de Thomas.
Maintenant, ça vient vers moi, là. Gabriel me fait le plaisir de me laisser quelques minutes.
Mais tu es très bon orateur aussi, Thomas.
Oh, donc, on fait ce qu'on peut. Hein.
On va partager le plaisir.
En fait, c'est vrai que quand tu l'expliquais à Edgar Cayce, avait vraiment cette vision de voir les choses, hein, ça qui est extraordinaire. Et donc là, j'ai pu trouver quelques petites informations. Les principaux thèmes de Cayce, dont ne se faisait pas de grands risques interprétatifs, et les lectures de santé donc sont les plus nombreuses, et elles impliquent beaucoup de concepts et pratiques résultant d'une vision alternative de la santé. Alors Cayce, donc, comme tu l'expliquais, éveillé ou endormi, a décrit son travail en termes de service chrétien. Cependant, ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme ou la métaphysique se sont concentrés sur un ensemble de sujets quelque peu différents. Alors, concernant l'origine et la destinée de l'humanité, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, tous les esprits ont été créés au commencement et trouvent leur chemin pour retourner là d'où ils viennent. Cayce croit que les âmes humaines ont été créées avec une conscience de leur unité avec Dieu. Certaines ont perdu cet état, d'autres, conduites par l'âme de Jésus, seraient bénévoles pour les sauver. La Terre, avec toutes ses limitations, aurait été créée en tant qu'arène appropriée à la croissance spirituelle.
Une belle théorie.
Je trouve.
C'est pas mal.
Réincarnation. Alors, Cayce enseigne la réincarnation et le karma comme des instruments des lois d'un dieu d'amour plutôt que des lois naturelles et aveugles. Son but est d'enseigner certaines leçons spirituelles. Les animaux ont des âmes indifférenciées de groupe plutôt qu'individuelles et conscientes. Une fois que l'âme évolue à travers une succession d'incarnations animales et réalise le statut humain, elle ne réapparaît plus sous la forme animale. Le point de vue de Cayce incorpore des enseignements théosophiques sur l'évolution spirituelle. Bon, ça, c'est un petit peu l'enseignement spirituel, ça. Hein.
Oui, bon, il y a beaucoup de. D'idées différentes sur l'âme des animaux.
Ouais,
Bon, il est très difficile de.
En passant, oui.
Bon.
Je connais ton point de vue.
Voilà.
Je connais ton point de vue. Ok. Voilà. Je sais que tu donnes beaucoup de crédit à la réincarnation. Humaine.
Oui.
Voilà.
Humaine, oui.
Maintenant.
Animal, bon, de toute façon, on n'a pas travaillé là-dessus.
On est d'accord.
Sur la réincarnation humaine, bon, on a Stevenson qui a fait un bon travail là-dessus.
Oui.
Donc, on peut déjà avoir une idée un petit peu de ce que c'est. Mais sur la réincarnation animale, aucun travail n'a été fait. Donc, bon.
Même dans les régressions hypnoses, on a nos informations remontant à des vies antérieures humaines. Mais à quoi bon ça nous apporterait d'avoir des révélations de vies antérieures animales? Imaginons qu'on était un cochon et qu'on s'est fait laminer dans un abattoir. Je vois pas tellement le but d'une vie. Ou alors, si on était un petit Pékinois pendant 12 ans et on a vécu sous les frais de la princesse de Madame de Pompadour, enfin, je ne sais pas.
Voilà.
C'est pas non plus, je sais pas. Hein.
Alors, ce qui concerne leur réincarnation, par contre, au niveau de leurs âmes, bon, là aussi, il y a discussion possible.
Selon les divers bouquins que moi j'ai eu l'occasion de lire, apparemment.
Les humains sont avec les humains, les animaux sont avec les animaux, les plantes avec les plantes. Voilà. Chacun vit dans son monde.
Maintenant, est-ce qu'on passe d'une catégorie à une autre? C'est-à-dire, est-ce que la minérale devient végétale, végétale, animale?
Il est quand même bon de savoir que pas mal de médiums ont contacté donc des esprits de l'autre côté qui nous disent que certains animaux sont avec eux. Ils ont retrouvé l'animal de compagnie qu'ils avaient sur cette
terre.
Donc j'imagine qu'il y aura quand même une espèce de différence, on peut appeler ça comme ça, entre un animal de compagnie et un troupeau de moutons dans la nature.
Je pense.
À moins d'être très attaché à ces moutons, je ne sais pas.
Ouais. Bon, on va dire qu'on aura une partie de vérité quand on y sera de l'autre côté.
Voilà.
Alors, on en reparlera, on fera Pacific FM en direct de l'au-delà quand on sera de l'autre côté. Hein. Bon. Alors, astrologie. Case accepte l'astrologie en supposant que les âmes humaines passent du temps sur d'autres planètes, ou peut-être leur contrepartie spirituelle entre deux incarnations. La position des planètes à la naissance témoignerait de ces influences. Intéressant.
Oui, bah, les spirits en parlent de ces planètes.
Ils donnent du crédit au fait qu'il y ait d'autres mondes habités, en fait.
Oui, sous d'autres formes. Sous d'autres formes. Sous la forme humaine.
Hein. Évidemment. Ah! Pourquoi bon, pas?
D'après Allan Kardec et le livre des esprits, ce qu'on apprend, c'est que sur les autres planètes, les formes de vie sont différentes des nôtres, et que la nôtre sur Terre est la plus grossière. C'est une forme de vie la plus matérielle des formes de vie. On suppose, les esprits nous disent que sur les autres planètes, ce sont des formes de vie plus spirituelles que les nôtres, la matière a beaucoup moins d'importance.
Il y a peut-être des planètes primitives.
Mais pour les esprits purs, ces planètes, malgré tout, restent matérielles.
Ah, on est d'accord. Bien sûr.
C'est une espèce d'échelle de matérialité.
Tout à fait.
Que l'on franchit pour atteindre la pureté angélique.
Tout à fait. Ouais. Alors, les lois universelles. Donc, les âmes incarnées sur la Terre sont, d'après Edgar Cayce, sujettes à certaines lois spirituelles, telles que tu récolteras ce que tu auras semé, karma, tu seras jugé comme tu juges les autres. De telles lois représenteraient un aspect de la pitié de Dieu qui guiderait les hommes sur leur chemin spirituel, quelles que soient leurs circonstances. Bon, c'est à peu près l'évolution. Bête, hein. Jésus et le Christ, suivant le courant de la nouvelle pensée décrit plus haut, Case distingue Jésus et l'état du Christ. Brièvement, Jésus aurait eu une âme comme n'importe quelle personne qui s'est réincarnée à plusieurs reprises et a fait beaucoup d'erreurs. Un peu comme nous, on en peut en faire. L'état du Christ est un état qu'il aurait atteint et auquel toutes les personnes peuvent aspirer. Ainsi, Case aurait appelé Jésus le frère le plus âgé. Pas bête.
Oui,
quelque part. Partir du principe que Jésus ait été la personne la plus... de passage sur Terre la plus dans la lumière. Je sais pas, hein. Il y en a eu d'autres aussi.
Oui.
Est-ce que lui aurait été justement le sommet de la hiérarchie spirituelle en esprit à être venu sur Terre pour nous aider à trouver la voie?
Est-ce qu'il est venu déjà élevé ou est-ce qu'il s'est élevé sur Terre?
Possible.
Là, une question qui n'a jamais été résolue. Bon, on ne saura pas. Hein.
Non, pour maintenant, oui.
Il y a toujours le débat, Jésus est-il un homme, est-il un dieu? Bon, pareil, ce débat, il dure depuis des siècles. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que ces citations reposent sur ces lectures de Bible. Hein, le fait d'avoir lu la Bible chaque année le fait penser d'une manière très chrétienne, bien sûr. Il est chrétien, d'ailleurs, même s'il est pasteur, hein. C'est pas
bien sûr
incompatible.
Ah, bien évidemment.
Et on retrouve beaucoup d'idées soigner le mal par le mal. Mm-hmm. On retrouve ces idées-là dans les expressions de Jésus quand il dit, par exemple, que d'un mal peut sortir un bien. Mm-hmm. C'est un peu ça.
Hein. Ouais.
Donc ces soins finalement rejoignent un petit peu ceux de son prédécesseur Jésus, parce que Jésus finalement était aussi un grand guérisseur. Hein.
Oui.
L'histoire ne dit pas s'il entendait des voix.
Ouais.
Je t'ai coupé, Thomas.
Non. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on fasse une émission sur Jésus, mais enfin là, c'est peut-être compliqué. Hein, moi, je me lancerai pas. Hein, je vais essayer de trouver
quelqu'un.
Tellement
d'avis partagés,
c'est compliqué.
C'est compliqué. On risquerait de heurter beaucoup de personnes.
Oh oui, j'en suis convaincu. Non, c'est pas une émission qu'on pourrait faire.
Non.
Corps, mental et esprit. Case utilise souvent ces trois notions. Comme tu nous expliquais d'ailleurs tout à l'heure.
Le tout, le un.
Exact. Ou leurs équivalents pour décrire le genre humain. L'esprit et la vie. L'esprit est le constructeur. L'examen médical et le résultat. Compilation de diverses lectures. Le concept est appliqué non seulement à la santé holistique, mais également à la vie spirituelle. Mais ça, tu en as parlé tout à l'heure.
Oui.
Je vais venir un petit peu sur l'expérience extrasensorielle. Edgar Cayce considérait les expériences psychiques et les expériences extrasensorielles comme sous-produits normaux de croissance d'âme. Dieu peut parler aux personnes à travers des rêves. Beaucoup de lectures se composent d'interprétations de rêves ou par des intuitions semblables ou de l'ordre de la conscience. Cependant, Edgar Cayce n'approuve pas le spiritisme ou la médiumnité parce que les entités contactées ainsi ne sont pas nécessairement particulièrement élevées. Pas tort. Au lieu de cela, il encourage les chercheurs à se concentrer sur le Christ. Quelque part, il n'a pas tort, mais bon.
Oui, mais enfin, il alimente un petit peu la querelle entre, oui, entre chrétiens et... Enfin, je ne vais pas dire chrétiens, entre catholiques et spirites.
Hein. Tout à fait.
Ce qui est à tort, à mon sens.
Oui.
Je pense que les deux se rejoignent.
Hein. Ouais. Alors là, c'est vrai que c'est un sacré sujet. On en parlait un petit peu en antenne tout à l'heure. C'est l'Atlantide. Tout le monde a déjà entendu parler de l'Atlantide.
Le grand mystère.
Bon, je veux dire ce que j'ai. Une lecture d'Edgar Cayce affirme l'existence de l'Atlantide. Un vaste continent avec une technologie de pointe dont les réfugiés ont peuplé l'Égypte antique et les régions précolombiennes d'Amérique. La description de Cayce de l'Atlantide a beaucoup en commun avec celle de Ignatius Donnelly. D'après Cayce, la société Atlante a été divisée en deux factions politiques d'une grande longévité. Une bonne, faction appelée le fils de la loi d'un, et une faction mauvaise, appelée les fils de Bélial. Beaucoup de personnes vivantes seraient les réincarnations d'âmes de l'Atlantide, qui doivent maintenant faire face aux mêmes tentations qu'avant. À cet égard, Edgar Cayce a également prévu la venue d'une certaine pierre bleue d'origine Atlante, qui devait être trouvée sur une île des Caraïbes et devait avoir le pouvoir de guérir. En 1974, une pectolite bleue volcanique connue sous le nom de Larimar a été trouvée en République dominicaine. Dans les cercles métaphysiques, des participants affirment que cette pierre peut soigner, comme la plupart des cristaux et pierres gemmes. T'en parlais tout à l'heure. Hein.
Oui, voilà. Mais pas d'une pierre magique.
Tout à fait. Hein. Moi, je te dis ce que j'ai. Voilà. Donc, la destruction de l'Atlantide vient d'une surcharge du cristal qui a causé un gigantesque explosion. Mais c'est vrai que, pour le moment, on ne sait pas où tout ça s'en est. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été lus.
Oui, et puis ce n'est pas le premier à prédire ce genre de choses, puisque déjà, au Moyen-Âge, on recherchait la pierre philosophale, par exemple, hein, qui n'a jamais été trouvée.
Voilà. Ouais. Alors, on parle de changement de terre. Donc, quelques lectures de Cayce font référence à de profonds changements de la Terre en conjonction avec l'inversion des pôles magnétiques terrestres. Elle surviendrait dans les années 30, les années 60 ou les années 90. Les personnes qui croient aux théories de Cayce ont développé plusieurs manières créatives d'interpréter de tels passages, bien que certaines aient été déçues que 1998 ne voit pas se révéler l'Atlantide, s'enfoncer la Californie ou revenir le Christ. C'est toujours les problèmes de date, hein.
Alors là, oui, les spécialistes se divisent. Certains disent que Cayce a raté sa prophétie. D'autres disent que la prophétie est à venir. C'est parce que, comme beaucoup de médiums, il a du mal avec les dates. Bon, c'est vrai que Thomas peut nous en dire quelque chose. En tant que médium, c'est vrai que les dates, c'est très difficile. Hein. Donc,
On peut avoir... comment je dirais ça? Ça m'arrive souvent d'avoir des... plutôt des périodes,
des fourchettes, quoi.
Oui, voilà. Une date précise, hein. Je sais qu'il y a des, il y en a qui ont, j'irais le toupet dans la voyance de balancer des dates précises.
Oui, on peut dire le toupet parce que.
Oui, parce que c'est dangereux.
Ouais,
j'ai déjà eu des gens qui sont venus me dire, on m'a annoncé tel jour, tel moment, la date du décès de ma belle-mère ou de mon père, etc.
Ouais.
Je vais vous m'appeler quand c'est ce cas-là.
En général, ça se retourne contre eux. Hein.
Ouais.
Exemple flagrant d'ailleurs avec le fameux couturier
Paco Rabanne
qui avait donné son point de vue sur une catastrophe en donnant une date précise. Et
très dangereux.
Voilà.
Oui, ça discrédite et puis il faut faire très attention à ce qu'on fait. Bien sûr. Mmh. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Oh là là, j'ai pas terminé. On va parler. Laurent, il nous coupe la chic là.
Ah,
hein. Je plaisante, Laurent. On serait bien resté encore un petit bout de temps. C'est vrai que c'était vraiment très agréable. Et puis de toute manière, bon, je vais donner le programme des émissions d'enquête spirituelle pour les semaines à venir. Bon, j'en profite. Je vais annoncer la dernière de l'année. Ce sera le vendredi 17 décembre 2010 avec Gabriel.
Ah. De nouveau, le retour
sur la vie du
Gabriel
singe.
2.
dans la, oui, Gabriel II, la vie de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars.
Mais avec voilà. plaisir, Thomas.
Donc on va reparler de ça, et puis éventuellement le Padre Pio va...
On sera plongé dans le...
On a le temps, hein.
On aura la période révolutionnaire avec le curé d'Ars.
Ah oui, c'est génial, ça aussi, le curé d'Ars. Ouais, tu connais pas le curé d'Ars?
Non, non pas du tout.
Bah, tu es dans la région de Lyon, hein, c'était ouais, ça.
C'est
hein.
ça, près de Lyon.
Mais dans, par exemple, à Lille, au Sacré-Cœur, rue Solferino, il y a plusieurs statues, dont le curé d'Ars.
Ok.
Et Padre Pio, si je ne m'abuse, à La Panne, il y a aussi une église, dans la grande rue de La Panne, il y a le Padre Pio en statue de bronze.
Ah, possible.
Je ne sais pas.
Eh ben, je te l'apprends.
Je sais qu'en Italie, il y a des statues partout de Padre Pio.
Ah oui. Ouais, eh ben, à La Panne, je sais pas si tu connais. Tu connais La Panne de Panne.
Oui, mais il y a longtemps que je ne suis pas allé.
Bon, bah, si tu as l'occasion d'aller manger une glace australienne à côté de l'église.
Les Belges me pardonneront.
Eh ben, tu iras, il n'y a pas.
Okay.
La semaine prochaine, c'est du lourd. On va parler des différents outils de divination en long, en large, en travers. On va parler du pendule. On va parler de la cartomancie, les runes avec moi-même, les voyances par le plomb, les voyances par, bah, par tout. On aura certainement une ou deux invités. Donc il y aura certainement une tarologue de Saint-Amand qui va venir, Sarah Rosière précisément, qui okay. est installée. Peut-être quelqu'un de tourné. J'ai bien dit peut-être, hein. Il faut que j'arrive à la convaincre. C'est pas facile. Et il y aura moi-même qui pourrait aussi parler. Et on fait de la voyance dans la dernière partie où vous pourrez nous appeler dans la dernière partie de l'émission au numéro que Amy, bah, nous rappellera la semaine prochaine. Hein. Moi, t'as envie encore de nous parler?
Non. Elle est pas motivée.
De toute manière, la semaine prochaine, on parle de tout ça en matière de voyance. Et le 3 décembre, une émission très intéressante sur le sixième sens des animaux. Ah, ouais. On aura une...
Très intéressant.
Ah oui, ça va être intéressant. Et on aura une intervenante de Reims au téléphone qui, elle, parle avec les animaux vivants.
Ouais, voilà. C'est très intéressant.
Le 10 décembre, pendant que j'y suis, on va parler du channelisme et les connexions spirituelles avec une personne, Anne Duflo, qui fait également le... qui est channel. Et puis, le 17 décembre, notre ami Gabriel qui nous revient pour le curé d'Ars. Je crois que j'ai tout dit, mon cher ami Laurent.
Oui. On peut rappeler aussi le Facebook de l'émission. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Enquête Spirituelle. C'est très simple à trouver. Vous tapez Enquête Spirituelle sur Facebook et vous nous trouverez. Le site de la radio, oui, Thomas l'a dit tout à l'heure, votez pour nous. Il y a un petit sondage qui est sur le site.
Votez pour Enquête Spirituelle sur pacificfm.com, s'il vous plaît.
.be.
.be, pardon, est-ce que je vois .com devant, là?
Non, c'est .be, c'est pacificfm.be, le site de la radio, pour écouter aussi le podcast.
C'est simple. Toutes celles et ceux actuellement qui nous écoutent sur Internet, ne partez pas tout de suite. Vous allez côté droit, et vous voyez Enquête Spirituelle, boum, vous balancez votre petit vote. Comme ça, boum, on passe en premier, c'est génial. Voilà.
Voilà.
Ça va me faire passer un bon week-end. Tant pis pour Culture Buzz. je sais plus.
Et si vous voulez nous écrire...
Je plaisante, évidemment.
Si vous voulez nous écrire par email, vous tapez l'adresse enquête au pluriel @pacificfm.be. Ça arrivera dans la boîte de Thomas et dans la mienne. Donc on sera là pour vous répondre, bien évidemment. On en reçoit de temps en temps des petits emails. On fait coucou d'ailleurs.
Un petit coucou, hein. Ludovic qui m'a reçu, ouais. qui nous écoute en podcast. Hein, il peut pas écouter en direct, c'est ce qu'il m'expliquait.
Ouais.
Il est dans la région. Mince. Ah, j'ai honte, je ne sais plus. C'est pas grave. Coucou à Ludovic, il se reconnaîtra.
Voilà, et on se retrouve donc la semaine prochaine avec le programme, avec la tarologue.
Les différents outils de divination.
Les différents outils de divination, bien entendu.